Du Notre Père commencé il y a déjà 2 ans et demi. Je n'imaginais pas en commençant ça allait prendre autant de temps. Mais plus on s'approche du Notre Père et plus on se rend compte des abîmes de profondeur qu'il contient. Toute la vie spirituelle s'y trouve. Et je ne m'attendais pas non plus à ce que ce soit si difficile d'aborder la fin du Notre Père. C'est-à-dire les 2 dernières demandes, garde-nous d'entrer dans la tentation et délivre-nous du malin. Vous avez remarqué que le Notre Père commence par l'invocation du Père, Père, et qu'il se termine par, le dernier mot, c'est le malin. Donc nous allons vraiment des cieux les plus ultimes, les plus profonds, les plus mystérieux, jusqu'au profond des enfers, et au profond de notre cœur où parfois le malin se niche. Et donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés et je vous demanderai une grande indulgence aujourd'hui parce que pour aborder ce sujet, c'est vraiment très difficile. Et je trouve que je me suis heurté à un abîme de mystère justement, le mystère du mal, le mystère de la souffrance, le mystère de l'iniquité, le mystère de Satan, le mystère du salut par le Christ qui entre dans la souffrance. Et donc ce travail, je dirais, soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Donc je ne serai pas ici dans le rôle de quelqu'un qui enseigne, mais de quelqu'un qui montre certains aspects de notre tradition, qui parle du mal, de la souffrance, du malin. Et tous ces aspects posent de nombreuses questions. Donc ces questions ne seront pas résolues aujourd'hui, nous n'aurons que des petits aspects, des réponses que la tradition nous donne. Et nous allons commencer par quelque chose de plus théorique dans la première partie, c'est comment traduire ces 2 demandes. Et nous terminerons, rassurez-vous, par quelque chose de beaucoup plus pratique. Comment le malin se manifeste-t-il dans nos vies, dans la vie de manière générale? À quoi faut-il être attentif? Puisque finalement, toute la question est là. Pourquoi demander d'être délivré du malin et de la tentation? Quelle forme est-ce que ça prend concrètement dans nos vies? Ça, ce sera pour la fin de l'après-midi. J'ai choisi de lier les 2 dernières demandes. J'avais commencé par n'analyser que la première, ne nous laisse pas entrer dans la tentation, et je me suis rendu compte qu'il était impossible de parler de tentation sans parler de tentateur, et inversement. Et donc, ces 2 demandes sont liées, je les ai liées, c'est la 6e et la 7e demande, et je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quelques années, on a changé notre traduction, et le « mais » entre les 2 demandes est devenu « et ». Et ce n'est donc plus « ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin ». Et c'est « et délivre-nous du malin », ce qui montre bien que les 2 demandes forment un bloc, elles vont ensemble. Il n'y a pas de contradiction. Au contraire, c'est 2 demandes qui vont exactement dans le même sens. Alors, comment est-ce que je vais essayer d'aborder cette montagne? Vous savez que on peut aborder une montagne par la face nord, la face sud, la face est, ouest, sud-ouest, etc. Eh bien, justement, j'ai choisi 4 faces, et dans la première approche, nous allons voir les difficultés de traduction. Et c'est intéressant de rencontrer les difficultés, parce que ça soulève justement une série de questions. Deuxièmement, je parlerai du sens de l'épreuve et de la tentation dans la tradition, notre tradition chrétienne, et aussi du rôle de Dieu dans les épreuves et dans la tentation. En troisième partie, nous allons aborder ce personnage mystérieux qu'on appelle Satan, et qui a de multiples noms que vous connaissez mais que je vous rappellerai, et chacun des noms nous donne un aspect de sa personnalité. Et enfin, nous nous intéresserons à l'action concrète du malin dans le monde et dans nos vies. Première approche, comment traduire les deux dernières demandes relatives à l'épreuve et à la tentation? Pour ceux qui connaissent le grec, ça donne ceci, « Kaime eis edenkes eis peraismon alla russai apo tu poneru ». Je suppose que ça vous semble évident, comme du chinois. En tout cas, j'ai eu du mal à percer le mystère de tous ces mots. J'ai été voir sur Internet les mots grecs, etc. Alors, que donne la traduction littérale de ce texte? Eh bien, c'est « e, kai »,« ne pas, mais », entrer dans Eisenenkes, Eis, Peraismon, qui veut dire Perasmos, veut dire la tentation ou l'épreuve. Et nous allons voir qu'il s'agit de choisir entre les deux parce que ça n'a pas tout à fait le même sens. Alla russai apotou poneru, mais arrache-nous, c'est toujours littéral, ou libère, délivre, arrache, sors-nous de là, du mauvais, tou poneru, ou du mal. Alors, que choisir, le mal ou le mauvais, le malin? Il y a donc trois difficultés dans ce texte. Comment traduire le mot perasmos qui signifie épreuve ou tentation? Comment percevoir le rôle de Dieu dans l'envoi de l'épreuve ou de la tentation? Et comment traduire le mot poneros, ici au génitif, ponero, soit par mal, soit par mauvais ou malin? À ce propos, j'ai été bien aidé par un livre de Jean-Marie Gourville, que je vous recommande. C'est un orthodoxe dont le livre s'appelle « Ne nous laisse pas entrer en tentation », publié il y a une dizaine d'années, qui analyse tout ça et ça m'a vraiment aidé et je suivrai donc le canevas qu'il propose. Première difficulté, le mot « perasmos », « perasmon » dans la prière. Épreuve ou tentation? Comme vous le savez, l'épreuve est une réalité centrale de nos vies, universelle, inévitable. Tout être humain est constamment confronté à des épreuves, grandes et petites. Et dans le mot « peirasmos », nous trouvons la racine « peira », qui signifie « éprouver, essayer, expérimenter », comme dans un laboratoire. « Peira » en grec, « essayer, expérimenter ». Et donc, dans l'épreuve, nous expérimentons quelque chose. C'est souvent, et presque toujours, très peu agréable, une épreuve. Mais c'est indispensable. Car sans épreuve, sans crise, nous ne pouvons pas avancer. Nous nous endormons. Mais l'épreuve, comme vous le savez, peut nous briser, nous anéantir. Mais toutes les sagesses du monde, pas simplement la sagesse chrétienne, mais toutes les sagesses du monde, insistent sur le caractère pédagogique de l'épreuve, initiatique. L'épreuve est censée, si nous ne la traversons, nous rendre plus forts, plus endurants, plus sages, plus solides. C'est donc comme une alchimie de notre être, l'épreuve. Nous y reviendrons dans la deuxième partie. Mais perasmos, qu'on traduit souvent par épreuve, peut aussi être traduit par le mot tentation. Et là, la tentation, comme vous le présentez, comme vous le savez, c'est un peu différent, et même pas mal différent, de l'épreuve. Pourquoi? Parce que l'épreuve provient souvent de sources extérieures, accidentelles, ou intérieures, volontaires ou involontaires. Et l'épreuve, a priori, n'a pas de sens, pas de but précis. Alors que la tentation, elle, a un sens beaucoup plus restreint. La tentation est une épreuve, mais une épreuve d'un type particulier. Et la tentation émane d'une source unique, alors que l'épreuve peut émaner de multiples sources. Elle émane du tentateur. Et si l'épreuve n'a pas de but précis a priori, la tentation en a un. Et la tentation, quel est son but? Nous faire tomber, nous polluer, entraver notre relation, nous bloquer dans notre développement. Pourquoi choisir le mot tentation comme notre Église l'a fait, au contraire d'autres Églises? Pour au moins trois motifs. D'abord, il faut savoir qu'il existe un autre mot grec pour le mot « épreuve ». C'est le mot « dokimé ». C'est un mot qu'on rencontre à tous les coins de la Bible et qui est toujours traduit par « épreuve », jamais par « tentation ». Alors que « peirasmos » peut être traduit de deux manières différentes. La deuxième raison, je vous en ai déjà parlé, il est évident que ces deux demandes doivent tenir ensemble. si nous demandons d'être délivrés, c'est de la tentation, parce que nous allons parler du tentateur dans la même demande, le dédoublement de cette demande. Et donc, dès lors qu'on lit la première partie de la phrase et la deuxième partie, nécessairement, on va parler de tentation plutôt que d'épreuve. Enfin, il serait contraire à l'enseignement de la tradition, de toutes les traditions, de vouloir éviter l'expérience de la tentation. Alors qu'il est au contraire conforme à cet enseignement de rejeter toute entrée complaisante dans la tentation. Donc, conclusion de cette première petite approche, il s'agit bien de tentations dont on demande à Dieu de nous préserver. Deuxième difficulté, comment traduire le rôle de Dieu, comment comprendre, percevoir le rôle de Dieu dans la demande d'écarter la tentation. Il y a ici deux familles distinctes qui ont donné lieu à deux types de traductions. Soit on donne à Dieu un rôle actif dans l'envoi de la tentation, soit au contraire on lui donne un rôle dans le fait de nous aider dans la tentation. Et c'est très différent. La première famille, Dieu est actif dans l'envoi même de la tentation. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore de la traduction classique qu'on appelait œcuménique depuis l'année 1966, où on demandait à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation. Et encore, l'autre jour, on était dans un mariage dans une église catholique, et c'était la version qui est toujours dite. Alors que cette version a changé, comme vous le savez peut-être, il y a 2 ans ou 3 ans, le Vatican a adopté une traduction qui est très proche de la nôtre, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et nous, c'est garde-nous d'entrer dans la tentation. C'est exactement kiff-kiff. Et donc, la traduction, la mauvaise traduction classique, je dis tout de suite qu'elle est mauvaise, et je vous dirai pourquoi, c'était ne nous soumets pas à la tentation, où il y avait des variantes, ne nous conduis pas dans la tentation, où Dieu ne nous expose pas à la tentation, où ne nous introduit pas dans la tentation. Il s'agit là évidemment d'un contresens évident, puisque ce n'est pas Dieu qui tente. D'ailleurs, Saint Jacques, dans son épître, dit que nul ne dise que Dieu tente, lui-même ne tente personne. Et Tertullien, que le ciel nous préserve de croire que Dieu puisse nous tenter. Évidemment, comment imaginer un Dieu tentateur, qui jouerait les deux rôles, si vous voulez, dans la pièce, le rôle du bon et le rôle du mauvais. Ce serait sournois et plutôt pervers de sa part, de tenter de nous faire tomber, de nous détourner, alors qu'il nous ouvre le chemin vers lui. Le Siracide disait, ne dis pas, c'est le Seigneur qui m'a dévoyé, car il ne fait pas ce qu'il a en horreur, bien sûr. Et d'ailleurs, pourquoi évoquer le rôle du tentateur et demander d'en être délivré si c'est Dieu lui-même qui nous tente? C'est absurde, ça n'a aucun sens. Et toute la difficulté, mais je passe rapidement là-dessus, vient de l'endroit où l'on place la négation dans la première phrase. Ne pas peut se rapporter au rôle de Dieu, Dieu ne m'envoie pas la tentation, ou Dieu aide-moi à ne pas succomber à la tentation. Et selon la place de la négation, que le texte grec ne dit pas, la traduction est tout à fait différente. Il est donc évident que Dieu ne nous fait pas entrer dans la tentation, mais qu'on demande à Dieu de ne pas entrer avec son aide dans la tentation. Et nous abordons ainsi la deuxième famille de traduction juste cette fois-ci. Dieu nous aide à ne pas succomber à la tentation. Et là, je vous ai énuméré quelques traductions justes que j'ai glanées à gauche à droite. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, suggestion d'Olivier Clément. Fait que nous n'entrions pas dans la tentation, une autre traduction, la nôtre, garde-nous d'entrer dans la tentation, etc. J'en ai une dizaine, quand vous aurez le polycopié, vous verrez si ça vous intéresse. Alors on pourrait dire, tiens mais, et c'est une question que je me suis posée, c'est pour ça que je vous la soumets, à un moment donné dans l'évangile de Matthieu et de Marc, on dit que Jésus fut envoyé au désert par l'Esprit pour y être tenté. Voilà quelque chose qui, a priori, est curieux. On dit, tiens, si ce n'est pas Dieu qui tente, pourquoi est-ce qu'il envoie son Fils bien-aimé pour y être tenté? Eh bien, c'est très différent. Le texte ne dit pas pour le tenter. Ce n'est pas Dieu qui envoie pour tenter lui-même, mais pour y être tenté, dit le texte, par Satan. Et nous verrons pourquoi. Je ne vais pas développer ça tout de suite. Nous rencontrerons cet épisode un peu plus loin, épisode très important. Et pourtant, deuxième subtilité, et j'y reviendrai, je vous ai dit, je vais procéder par petites touches. Donc, si ce sont des petites touches, si on ne les saisit pas maintenant, on les développera plus tard, ou bien il y a beaucoup de touches, donc on n'est pas obligé de toutes les saisir. La tradition dit quand même que Dieu n'est pas l'auteur de la tentation, mais, nuance importante, il la permet. Il autorise la tentation, et nous verrons dans quelques instants pourquoi. Troisième difficulté, et ça c'est quelque chose qui nous sépare assez radicalement de l'Église catholique et des protestants, c'est la traduction du mot « poneros ». Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est le malin? L'Église catholique donc parle du mal à partir de la Vulgate. Vous connaissez la Vulgate de Saint Jérôme, c'est la traduction du grec en latin de la Bible par Saint Jérôme au 5e siècle. Alors, est-ce qu'on peut admettre les deux traductions? Eh bien, je pense que oui. Je vais essayer de m'en expliquer. On peut admettre que le mot poneros peut être considéré soit comme un mot neutre, c'est-à-dire le mal, ce qui est mauvais, soit désigné un être personnalisé, et c'est quand même mieux, je vous dirai pourquoi tout à l'heure, un sujet donc, c'est-à-dire le mauvais, le malin, le Satan, le pervers, etc. Quelle traduction choisir? Première option, nous optons pour la traduction le mal, c'est-à-dire un substantif impersonnel. Délivre-nous du mal. Je vous l'ai dit, ça vient du texte de Saint Jérôme qui traduit Alla russai emas tu poneru par liberanos amalo. Emas amalo, ce n'est pas un mauvais, c'est pas un nom, c'est le mal. Alors, est-ce que c'est le fruit d'une réflexion d'ordre théologique de l'Église d'Occident? Eh bien, je n'en sais absolument rien. Ou est-ce que c'est un choix inconscient? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Toujours est-il, me semble-t-il, qu'on ne peut pas considérer que ce n'est pas tout à fait faux si nous demandons délivre-nous du mal, parce que le mal, comme vous le savez, gangrène le monde, pervertit les relations. Et il est impérieux d'être délivré du mal. Mais c'est une approche plus métaphysique, plus abstraite. Parce que, en réalité, est-ce que le mal existe en soi? Eh bien, je dirais non. Il n'existe pas en soi. Il n'existe que dans ses manifestations concrètes. Mais le mal, ce n'est pas une idée platonicienne, vous savez, qui plane au-dessus de l'espace et du temps et qui, à certains moments, se concrétise. Le mal n'existe pas, mais les maux existent. Les souffrances existent. Et les philosophes et théologiens qui sont tenants de cette traduction, le mal, donnent une définition du mal, mais une définition qui est, me semble-t-il, tout à fait insatisfaisante et abstraite. Ils définissent le mal négativement comme l'absence du bien. Je veux bien, absence du bien. Mais ça me paraît terriblement théorique et déconnecté de la réalité. Est-ce qu'on peut dire, comme disait Jean-Yves Leloup, à un malade qu'il souffre d'une absence de santé? À une femme battue qu'elle souffre d'une absence d'attention ou de respect de son mari, etc. Non, quand on subit le mal, c'est quelque chose qui nous laboure la chair, l'esprit, la psyché, et qui nous détruit, nous déstructure, nous ronge. Mais ce n'est pas le mal à ce moment-là, c'est un mal particulier. Et donc, comme l'écrivait Mgr Jean, et je partage tout à fait son avis, ce grand théologien, il écrivait « Le mal n'existe pas ». Ce qui existe n'est pas le mal. Ce sont différents aspects de l'être. Le mal est un état de conscience personnelle. Donc, conscience personnelle, il se concrétise toujours dans un état de conscience. Le malin, les actes mauvais sont, le mal en soi n'est pas. Il existe cependant deux inconvénients, me semble-t-il, à choisir le mal plutôt que le malin, en dehors du fait de ce que je viens de vous dire. Le premier, c'est de négliger et d'ignorer même, comme c'est le cas à notre époque, qu'il existe un esprit du mal. Et quand on méconnaît son existence et son action concrète, lui ne nous ignore pas, ne nous oublie pas. Il s'occupe de nous activement à notre insu, puisque nous ne savons même pas qu'il existe ou nous négligeons son existence. Et donc ne pas se rendre compte que la lutte contre le pouvoir du malin est un aspect essentiel de notre vie spirituelle. Premier gros inconvénient de négliger le mal, le malin plutôt, au profit du mal. Le second inconvénient, c'est Si nous demandons au Seigneur d'être libéré du mal, c'est bien sûr un cri de l'être, du fond du cœur, celui que nous rencontrons dans les psaumes, ou que nous disons au début de chaque office, « Ô Dieu, viens à mon aide, hâte-toi de me secourir, du fond de l'abîme, je crie vers toi, mon Dieu. » C'est donc un appel à l'aide. Mais Dieu peut-il nous délivrer du mal? Eh bien, on risque de vous choquer, je ne le pense pas. Car le mal, les épreuves, les souffrances sont inhérentes à notre condition humaine exilée. Et Dieu lui-même, dans son incarnation, s'y est soumis. Rappelons qu'au milieu du jardin d'Éden, c'est très curieux, alors que c'est un lieu préservé, s'il en est, le jardin d'Éden, vraiment, on le regrette toute sa vie de ne pas le connaître, c'est un lieu préservé, et pourtant au milieu se trouve un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et aussi que le choix entre le bien et le mal ne peut être retiré à la créature. Pourquoi? Parce que la créature, nous sommes fondamentalement libres de choisir. Et si Dieu pouvait nous libérer du mal par un coup de baguette magique, le faire disparaître, l'anéantir, quel serait le sens de notre liberté? Le choix ne serait plus possible puisque le mal aurait disparu, donc il n'y aurait plus que le bien. Donc nous ne pourrions plus exercer cette merveilleuse mais terrible liberté qui fait la grandeur de l'homme et la grandeur de l'ange. Paul Evdokimov, je vais vous prendre une petite citation ici, que je trouve très profonde. L'expérience du mal est la conséquence mauvaise de celle de la liberté. Elle en est l'échec. C'est dans la rencontre de l'homme et du mal que le caractère primordial de la liberté apparaît. Elle est plus profonde, cette rencontre, que l'expérience du... La liberté est plus profonde que l'expérience du mal, et à son sens premier, non dans l'expérience du mal, mais dans l'expérience de soi. C'est l'expérience de nous-mêmes qui est en jeu. Sans la rencontre avec le mal, la liberté n'existe pas. La pleine réalisation des possibilités humaines exige donc un état d'évasion, de l'état d'innocence. Je ne sais pas si vous avez suivi, vous relirez, je vous ai mis toutes les citations. C'est que cette expérience, cette possibilité de choisir le mal plutôt que le bien est fondamentale pour nous. Sans cette possibilité, nous n'avons pas de liberté et nous n'expérimentons pas qui nous sommes réellement dans notre profondeur. Ce que Evdokimov appelle l'expérience de soi. Et rappelons que cette réalité de l'existence du mal est tellement incontournable que le Christ lui-même y a été constamment confronté. Et il a dû, comme tout être humain, on l'oublie souvent, exercer sa propre liberté face au mal et aux esprits malins. Deuxième option, qui est la nôtre, nous choisissons le terme malin plutôt que mal. Alors là, ça devient plus concret. En ce sens que nous identifions avec la Bible et toute sa tradition, et en particulier les auteurs du Nouveau Testament, celui par qui le mal arrive. Le Christ dira celui par qui le scandale arrive, c'est-à-dire le Satan, l'adversaire, le malin, le père du mensonge, dira le Christ. Il y a au moins quatre motifs pour choisir cette traduction. Le premier motif, je vous le passe, c'est un argument de philologue, un argument de texte dont Jean-Yves Leloup parle dans son commentaire du Notre Père. C'est un peu compliqué, j'ai dû relire cinq fois pour vraiment comprendre de quoi il s'agit. C'est une question de placement d'un article devant le Satan ou le malin. Donc le texte semble dire qu'il s'agit bien d'un personnage et non pas d'un mot neutre, donc du malin plutôt que du mal. Argument de contexte. C'est déjà plus compréhensible. Nommer le malin est plus cohérent lorsqu'on lit les deux demandes, comme nous le faisons. Car la tentation vient du tentateur, et pas d'un mal abstrait qui flotte quelque part au-dessus de notre tête, sans visage, insaisissable. On pourrait très fort résumer les deux demandes en disant en une seule phrase, « Délivre-nous de la tentation et du tentateur ». Et c'est le titre d'ailleurs de... qui est annoncé aujourd'hui, la tentation et le tentateur. Troisième argument, c'est un argument évangélique. Nous allons voir que pour le Christ, pour les apôtres, le malin est un être terriblement présent, d'une très grande densité et d'une très grande activité. Et comme tel, il est pris très, très au sérieux par le Christ et ses disciples, contrairement à ce qui se passe à notre époque. Dernier argument qui a déjà été évoqué, c'est celui de la lutte ascétique. Si nous ignorons l'existence du malin, c'est un aveuglement préjudiciable à notre vie spirituelle, dans la mesure où nous n'avons pas de prise sur le mal lui-même, considéré comme un concept philosophique. On ne peut s'attaquer qu'à des maux concrets qui se manifestent, alors que l'on peut lutter contre le malin avec les armes de la foi et l'aide de l'Esprit-Saint, de Marie et de celui dont j'ai placé l'icône ici, qui est le contrepoids, si vous voulez, du malin, Saint-Michel. Conclusion de cette première approche, peut-être un peu théorique, mais rassurez-vous, après nous allons devenir plus concrets. Eh bien, je pense que nous devons adopter cette traduction qui est la nôtre, « Garde-nous » ou « Ne nous laisse pas », comme l'Église catholique actuelle, « entrer dans » ou « entrer en » tentation et « délivre-nous du malin ou du mauvais » ou, comme le dit Jean-Yves Leloup, « du pervers » en un mot. Deuxième approche, nous abordons la montagne par d'autres sentiers. Quel est le sens de l'épreuve et de la tentation? Et quel est le rôle que joue Dieu dans l'épreuve, dans la tentation? Tel que le texte de la prière et la tradition ecclésiale nous le suggèrent. Alors je partirai de quelques questions existentielles que nous nous sommes tous posées, qu'on continue à se poser. Pourquoi vivons-nous dans cette vallée de larmes, comme dit l'expression, plutôt que dans le sein de Dieu? Pourquoi le mal, sous toutes ses formes, se manifeste-t-il dans notre monde? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces massacres? Pourquoi ce mépris de la vie, de la beauté, les mensonges, les rivalités? Est-ce qu'on peut trouver un sens à tout ça? Est-ce que Dieu peut nous délivrer de toutes ces souffrances? Peut-il nous préserver de la douleur des séparations, des trahisons, nous servir de bouclier contre les épreuves? D'abord, nous devons admettre notre ignorance, et même celle de toute notre tradition, sur l'origine même du mal et de la souffrance. C'est une très grande question. D'où vient le mal? D'où vient la souffrance? Nous sommes vraiment ici face à un mystère, un abîme sans fond, un mystère insondable. Et comme le disait Voltaire dans son dictionnaire philosophique, la question du bien et du mal est un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de bonnes foi. On peut se casser la tête pendant des siècles, et on l'a fait. Des tas de philosophes se sont interrogés sur la question du mal et de théologiens sans parvenir à le résoudre. D'où vient ce mal? Et d'autre part, partons d'un autre constat, c'est que de nombreuses personnes n'acceptent pas que Dieu permette au mal et à la souffrance d'exister. La grande objection à l'existence de Dieu et à la foi, c'est l'existence du mal. C'est le constat que le mal et la souffrance nous ravagent. Et dans les frères Karamazov, vous vous rappelez peut-être que Ivan Karamazov, qui est l'esprit fort des trois, le contestataire, l'esprit critique, nie l'existence de Dieu à cause de la souffrance des enfants et des innocents. Et c'est donc ce mal qui existe, cette souffrance qui ravage le monde, c'est la pierre d'achoppement fondamentale. La pierre d'achoppement par excellence qui se dresse sur le chemin de tous ceux qui aimeraient croire en Dieu mais ne le peuvent pas à cause de l'existence du mal. Et vous savez que particulièrement après la Shoah, la question s'est posée avec encore beaucoup plus d'acuité. Comment Dieu a-t-il permis ce mal absolu? Nous avons quand même un début de réponse, mais nous allons voir, nous ne sommes pas sûrs que ce soit tout à fait une réponse à cette grande question. Dans la Bible, parce que la Bible a choisi, vous savez, il y a deux options possibles, je vais commencer par là. Soit nous estimons, nous pensons que le mal a sa racine en nous, dans nos pulsions intérieures. Nous portons plus qu'une ombre, nous portons des abîmes de mal, de souffrance, de violence en nous. Et c'est l'option, par exemple, qu'a choisi Freud et la psychanalyse. Ce sont nos pulsions qui nous poussent au mal. Et c'est d'ailleurs intéressant de constater que dans le bouddhisme, c'est un peu la même idée que nous retrouvons. L'origine de la souffrance dans le bouddhisme, vous savez que le grand sujet du Bouddha, c'est la souffrance. Il constate la souffrance et il en est tellement bouleversé qu'il va en faire son sujet principal, central, s'approcher de la souffrance et savoir pourquoi la souffrance existe et comment nous en délivrer. Le bouddhisme tourne complètement autour de ça. Eh bien, dans le bouddhisme, on choisit aussi de voir l'origine de la souffrance en nous-mêmes. Nous portons le mal en nous par notre ignorance, notre avidité, notre refus de la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire de notre nature de Bouddha. Et donc, finalement, il y a ici un lien entre le bouddhisme et Freud, je dirais, et la psychanalyse, qui voit l'origine de la souffrance en nous-mêmes. Et tout notre travail sera de nous en délivrer par un travail profond et personnel. Mais notre tradition choisit une autre option. La Bible ne rapporte pas l'origine de la souffrance à l'homme lui-même, mais à un personnage extérieur qui va apparaître dès les premiers livres, dès les premières lignes, pardon, de la Genèse, ce personnage mystérieux que nous appelons le malin, le Satan, l'adversaire, le diable. Nous voyons donc que dans la Genèse, le diable n'est pas nommé comme tel, mais apparaît un être mystérieux sous la forme d'un serpent. Et je vous dirai pourquoi le serpent tout à l'heure. D'ailleurs, le texte le dit, le plus rusé des animaux des champs. Et nous observons que le serpent est l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Elles sont au centre du jardin, ce qui montre leur caractère incontournable dans la voie d'accomplissement de l'homme et dans l'exercice de sa liberté. La Bible donc nous fournit un début de réponse, mais je vais vous dire dans quelques instants, ce n'est qu'un début de réponse. Les questions restent pratiquement entières malgré tout. La Bible nous fournit un début de réponse à cette question en attribuant la source du mal à un être extérieur à l'humanité et l'origine de la souffrance, au choix malheureux que nous pouvons faire en exerçant notre liberté. Est-ce que c'est suffisant au regard de la gravité des questions que j'ai posées il y a quelques instants? Serait-ce vraiment lui la cause, Satan, le malin, l'origine du mal? Et je trouve que ce n'est pas si simple du tout de répondre à cette question. À nouveau, je ne vous fournirai pas de réponse, je vous soulève la question. Parce que Satan, j'en parlerai dans la deuxième partie, est une créature, comme vous le savez, et une créature incorporelle. Il a été créé comme un ange, et un ange, je dirais, de grade supérieur, un séraphin. Alors, pourquoi cette créature incorporelle, séraphin, donc très très proche de Dieu, fait-il ce choix du mal? Pourquoi? Pourquoi choisir une autre voie que la voie de l'accomplissement en Dieu, de la réception des dons de Dieu, dont les anges sont si proches, et l'intelligence des anges, je crois que leur intelligence dépasse la nôtre infiniment. Alors pourquoi, nous aurons des éléments de réponse tout à l'heure, mais quand même, pourquoi on a répondu que c'est l'orgueil qui a perdu Satan, c'est la jalousie qui a perdu Satan, mais fondamentalement, pourquoi? Pourquoi pouvait-il choisir le mal plutôt que le bien alors qu'il avait le bien, Dieu, sous les yeux, de manière éclatante? C'est une question d'ordre métaphysique qui reste ouverte. Et donc on le voit, on tourne un peu en rond quand on s'interroge sur l'origine du mal. Alors, soyons réalistes, je dirais plus terre à terre, la seule issue est d'admettre purement et simplement que le mal et la souffrance existent, et qu'on y est constamment confronté. Et, c'est une petite consolation malgré tout, que le Christ lui-même y a été constamment confronté. Et, à nouveau, j'attire votre attention sur une différence entre ici le christianisme et le bouddhisme. Alors que le Bouddha a beaucoup parlé du mal et de la souffrance, le Christ lui-même n'en parle pas. Vous avez remarqué, il ne fait aucun discours sur le mal ni sur la souffrance. Qu'est-ce qu'il fait? Il entre dedans, de plein pied. Il entre dans la souffrance. Il l'accepte comme une donnée de base, en recevant la nature humaine. Et ayant accepté l'existence du mal et de la souffrance comme une donnée incontournable, nous aussi nous pouvons adopter une double attitude, selon que nous subissons le mal ou que nous pouvons infliger le mal à d'autres. s'il s'agit d'un mal que nous pouvons infliger à d'autres ou à nous-mêmes. La seule attitude, évidemment, est de rejeter cette tentation, de repousser le tentateur. Et en prenant tout d'abord conscience, ce qui n'est pas si évident que ça, de la tendance mauvaise que nous éprouvons. Donc prise de conscience et puis lutte avec l'aide de Dieu pour ne pas y donner libre cours, nous laisser aller, y succomber. C'est exactement ce que le Christ nous enseigne dans la prière. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Ne nous laisse pas commettre le mal. Succomber, consentir. Et c'est aussi, rappelez-vous, ce qu'il recommande à ses disciples dans le jardin des Oliviers, veillez et priez pour que vous n'entriez pas en tentation, que vous soyez inconscient, endormi, amorti, et que vous passiez à côté de quelque chose d'essentiel. Nous parlerons plus longuement dans la deuxième partie, la dernière partie de ce travail, des différentes formes concrètes que les tentations peuvent prendre dans nos vies. Soyez un peu patients, nous n'y arriverons pas tout de suite, mais comme vous le savez, les formes des tentations et les formes du mal que nous pouvons commettre, des souffrances que nous pouvons infliger, sont infinies, comme sont infinies les ruses du diable. Quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle en Angleterre, que je ne connaissais pas avant de faire ce travail, s'appelle Thomas Brown, disait « Tenter de dresser la liste de toutes les ruses du démon est une arithmétique trop difficile pour nous. » Ça nous échappe. Il a une imagination, une créativité extraordinaire, le démon. Une intelligence fabuleuse. Mais, ceci dit, ramenons ça à notre niveau, il est très important pour nous de prendre garde et de repérer dans notre vie les tentations qui nous assaillent. Constamment, nous avons des tentations chaque minute. Car sans prise de conscience des multiples ruses du tentateur et de ses tactiques innombrables, et de ces multiples portes d'entrée en nous, nous pouvons commettre le mal sans nous en rendre compte. Et c'est ce que nous disons avant la communion, le péché conscient et inconscient. Je me souviens qu'une personne que nous connaissons bien était venue une fois à notre liturgie et avait été profondément choquée par le fait qu'on parle de péché inconscient. Elle nous disait, mais enfin, le péché c'est toujours conscient. Mais non, pas du tout. La plupart des péchés sont inconscients. Et c'est même ça, je dirais, l'inconscience, le manque de conscience, le manque de prise de conscience est à la racine du mal. Je reviendrai à ce sujet tout à l'heure, le mal que nous pouvons connaître. Deuxième possibilité, le mal que nous subissons. Que pouvons-nous faire? Quelle attitude la prière et la tradition chrétienne nous portent-elles à adopter? La prière nous dit « délivre-nous du malin », c'est-à-dire aussi implicitement du mal que nous subissons par le fait du malin et de ceux qui tombent dans ses ruses. Lorsque le mal est fait, nous le subissons, nous ne pouvons plus l'éviter, nous souffrons, et souvent sans motif apparent, par accident. Par exemple, la maladie me terrasse, mon conjoint est décédé, mon ami m'a trahi, je suis victime de calomnies, d'exclusions, etc. Tous nous vivons de tas de situations où nous subissons un mal et une souffrance dont les causes nous échappent. Et que faire dans cette situation pour ne pas être complètement démoli, détruit? Et vous connaissez tous évidemment ce livre de la Bible qui met de manière exacerbée en scène ce personnage célèbre qui subit le mal de plein fouet, mais là, de tous les côtés, Job. Le livre de Job est vraiment le livre du juste qui subit le mal sans savoir pourquoi et dont les trois amis bien intentionnés vont s'occuper en essayant de lui expliquer pourquoi il souffre. Et chaque fois, Job, avec beaucoup de discernement, va repousser ses amis finalement qui sont quelque part des figures du tentateur. Le tentateur utilise parfois même l'amitié, même des gens proches de nous, pour nous faire tomber. Mais je ne vais pas entrer dans le livre de Job, c'est un vaste sujet sur lequel Annick de Souzenel notamment, mais beaucoup d'autres aussi, se sont penchés depuis des siècles. Alors que faire dans l'épreuve, dans la tentation? La tradition a développé une réflexion intense, un enseignement fort sur le sens de l'épreuve. À défaut de connaître l'origine de mes souffrances, du mal qui m'atteint, puisque le sens, l'origine profonde, la cause profonde de l'épreuve m'échappe totalement, puis-je malgré tout y trouver un sens qui ne me démolisse pas, qui me sorte la tête hors de l'eau? Car si le mal est totalement absurde, si la souffrance est totalement déraisonnable, insupportable, nous sommes submergés. Alors la seule issue, mais vraiment la seule issue, consiste à trouver un sens à ce que nous vivons. À en faire, à d'autres mots, une occasion de transformation, de mutation. Je cite ici un texte de Lita Basset, dans « Guérir du malheur », qui exprimera mieux que moi ce que je veux vous dire. Vivre et supporter le mal n'est véritablement possible que si nous y trouvons un sens, à la fois une signification et une orientation. Il s'agit de dissoudre, entre guillemets, le mal dans quelque chose de plus vaste que lui, quête d'un sens qui est infiniment à conquérir sur un arrière-fond de non-sens que révèle le mal. Toute expérience, y compris celle du mal, est en attente de sens. Et je vous rappelais que le mot « perasmos », que nous traduisons par « tentation » ou « épreuve », contient le terme « expérimenté », « pera ». Toute expérience, y compris celle du mal, est en attente de sens, c'est-à-dire de signification, de direction, sans quoi c'est une expérience autiste qui n'a d'autre sens qu'elle-même. Nous sommes dans un cul-de-sac. C'est par un acte de foi que nous ne cherchons plus l'origine du mal, comme je vous l'ai dit, l'origine du mal, c'est un problème métaphysique dont la réponse nous échappe. C'est par un acte de foi que nous ne cherchons plus l'origine du mal, mais la fonction du mal dans notre existence. Le sens se déploie bien en deçà du bien et du mal qui parsèment toute existence. Il faut la plonger dans la souffrance sans fond pour se mettre à sa recherche. C'est la quête désespérée du sens qui maintient Job en vie. Mais pour se mettre en quête de sens et pour y parvenir, l'aide de Dieu et de nos frères et sœurs, inspirés par lui et guidés par la compassion, l'écoute, nous est indispensable. Les peines ne servent à rien, écrivait le Macaire, ou disait le grand-père du désert Macaire. Les peines ne servent à rien si on n'y trouve pas en nous, si l'on ne trouve pas, pardon, en nous l'énergie de l'esprit. Et Amba Shenouda, dans le beau dialogue qu'il a mené avec Alphonse et Rachel Gutmann, disait derrière chaque tentation, il y a le démon qui veut nous arracher du chemin, mais il y a aussi Dieu qui toujours nous offre sa main secourable. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, écrit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et s'il est bien une constante dans toutes les traditions religieuses, c'est la conviction que nous pouvons nous fortifier dans et par l'épreuve, malgré les apparences, mais seulement quand elle est vécue en union avec Dieu, avec le Christ aussi, qui a souffert aussi, nous disons dans le credo, a souffert sous Ponce Pilate. Nous pouvons alors en sortir transformés, grandis. L'épreuve ainsi traversée peut nous révéler à nous-mêmes, et c'est une image que la tradition emploie très souvent, et même la Bible, comme le métal qui passe dans le creuset, qui est fondu et qui est transformé. Par exemple, dans le prophète Zacharie, « Je le mettrai dans le feu, je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Et dans les livres de la sagesse, Dieu les mit à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Et donc nous pouvons quelque part, mais ça ne vient pas facilement évidemment, ça ne vient pas tout de suite, puisque c'est la souffrance qui domine pendant longtemps, et la souffrance peut nous anéantir, nous priver de nos facultés de discernement, et même du goût de la prière parfois. Mais l'épreuve, et sachons-le, il faut s'accrocher à cette réalité, l'épreuve peut être détachée de son ressenti tragique, pour être vécue comme une expérience douloureuse et constructive. Une épreuve, nous dit le site que j'ai trouvé qui s'appelle Top Bible, Verbo Tentation ou Épreuve. Une épreuve est une expérience ayant pour but de faire connaître la valeur d'une chose ou d'une personne. Exemple, éprouver la solidité d'un pont, mettre à l'épreuve le dévouement d'un ami. L'épreuve, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui en sont l'occasion, est bonne en soi et nécessaire à l'exercice de la liberté humaine. Et pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est la cause d'affirmation et de progrès. C'est pourquoi nous voyons dans l'Ancien Testament que Dieu lui-même met à l'épreuve. Il met à l'épreuve tous les grands personnages, Abraham, Moïse, Jacob, Job. On peut les énumérer presque à l'infini. Il met à l'épreuve son peuple aussi, son peuple entier, pour éprouver et fortifier sa foi et sa fidélité. Ça, c'est un leitmotiv constant dans toute la Bible. Dieu éprouve pour fortifier. Et donc, dans toute la tradition apostolique, biblique, ecclésiale, l'épreuve est présentée comme l'occasion d'un progrès et d'une prise de conscience, d'un retournement. Saint Paul, par exemple, non, c'est Saint Pierre ici, va jusqu'à dire « Tressaillez d'allégresse, même s'il faut pour un peu de temps que vous soyez affligés par toutes sortes d'épreuves, afin que bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, c'est l'image dont je vous parlais il y a quelques instants, devienne un sujet de louange. Et Saint Jacques, considérez mes frères comme une joie totale, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, car l'épreuve de votre foi suscite la persévérance et la patience, l'expérience. Et Cyril de Jérusalem va résumer tout ça d'une phrase lapidaire, celui qui n'a pas connu l'épreuve n'a pas fait ses preuves. C'est simple, clair, net, mais c'est profond. Alors, épreuve et tentation. Nous venons de voir que l'épreuve est une expérience extrêmement difficile, mais qui a un côté positif dans la mesure où elle nous permet d'expérimenter notre état intérieur, notre résistance, notre foi, nos ressources. La tentation, comme je vous le disais tout à l'heure, est évidemment aussi une épreuve. C'est une sorte d'épreuve. Si on faisait de la théorie des ensembles, les épreuves, c'est un très grand cercle, et la tentation, un petit cercle à l'intérieur du grand cercle des épreuves. Et la tentation est donc une forme spécifique de l'épreuve. En quoi est-elle spécifique? Eh bien, je vous l'ai déjà dit, parce que d'une part, elle implique l'intervention d'un tiers malveillant, et ce tiers malveillant, qu'on appelle de différents noms, poursuit toujours le même but, nous détourner de Dieu, nous détourner de nos frères, et nous détourner de notre intériorité. Et donc nous voyons que si les épreuves surgissent de multiples circonstances de la vie, les tentations, elles, surgissent toujours d'un point précis, ou plutôt d'une personne précise, le tentateur. Une autre caractéristique les distingue aussi. Si l'épreuve est toujours perçue comme négative, pénible, et qu'elle est source de souffrance, la tentation, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, est le plus souvent enrobée de séduction. Elle nous paraît attirante, agréable, comme le fruit de l'arbre. Agréable pour les yeux et bonne à manger. Et donc, méfions-nous. Saint Thomas d'Aquin disait, « Le démon ne tente pas l'homme spirituel tout de suite avec des péchés graves, mais il commence toujours par des choses légères, petites touches, pour le conduire ensuite à des choses graves. » Fabrice Hadjadj, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur qui est un catholique, philosophe catholique, que j'apprécie beaucoup parce qu'il a sa manière de parler très inhabituelle et parfois un peu provocatrice, un peu décalée. Mais...
Et qui fait le nom, tu dis ?
Fabrice Hadjadj. H-A-D-J-A-Z-J. Hadjadj, c'est un nom arabe. Mais il est juif au départ, enfin il est toujours juif, mais il s'est converti au catholicisme. Alors je vous recommande la lecture de son livre qu'on trouve en livre de poche qui s'appelle La foi des démons. Déjà ce titre est provocateur parce qu'on se dit les démons mais n'ont pas la foi, mais évidemment qu'ils ont la foi. Les démons croient en Dieu, ils ont même bien plus la foi que la plupart des hommes parce que les démons n'ont aucun doute sur l'existence de Dieu. Seulement, ils veulent contrecarrer ces pensées divines. C'est autre chose. Donc, Fabrice Adjaye nous dit à ce propos, la tentation ne nous invite pas directement à faire le mal. Ce serait trop grossier. Elle prétend nous montrer ce qui est meilleur. Cette bienfaisance dont se parent toutes ces séductions. Et n'oublions pas que séducteur, c'est un des noms du tentateur. Et encore une autre citation de René Girard, cette fois-ci, que vous connaissez peut-être. René Girard dit, Satan se propose comme modèle à nos désirs, et il est bien plus facile à imiter que le Christ. De toute évidence, car il nous conseille de nous abandonner à tous nos penchants, au mépris de la morale et de ses interdits. Mon Dieu, comme ça paraît agréable et facile, il suffit de se laisser aller. Si on écoute ce très aimable et très moderne professeur, dit-il, on se sent d'abord libéré. Mais cette impression ne dure pas. Au lieu de nous avertir des pièges qu'il nous tend, Satan, tout simplement, nous y fait tomber. Il applaudit l'idée que les interdits ne servent à rien et que leur transgression ne comporte aucun danger. La route où Satan nous lance est large et facile. Vous vous rappelez, le pendant de cette phrase, c'est « Le chemin qui mène à la vie est resserré », dit le Christ. Alors, la tentation est-elle quelque chose de totalement négatif, de totalement inutile, à éviter à tout prix? Nous demandons au Père de ne pas entrer dans la tentation. Mais doit-on l'apercevoir comme vraiment quelque chose à proscrire, à fuir comme la peste? En d'autres termes, quel est le sens véritable du mot, de la phrase plutôt, « garde-nous d'entrer dans la tentation ». On pourrait conclure un peu rapidement ce qui vient d'être dit, que la tentation est mauvaise en soi, puisqu'elle vient du mauvais, du Satan. Et donc elle doit à tout prix être évitée. Et qu'il faut donc prier Dieu de nous l'épargner totalement. Eh bien, cette pensée, si nous pensons ça, c'est tout à fait erroné. Nous ne demandons pas au Père de ne pas être tenté, mais de ne pas entrer dans la tentation, ce qui est différent. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, Dieu permet que nous soyons tentés. Et d'autre part, au risque de vous choquer, la tentation peut nous être utile. Et nous allons voir que le tentateur lui-même a un rôle à jouer dans notre vie spirituelle. Je vous lis ici un extrait du site Apostolia du patriarcat roumain. Les tentations et les épreuves nous permettent de mieux connaître nos faiblesses, nos infirmités spirituelles et le véritable état de notre âme. Les tentations et les épreuves peuvent devenir des alliés précieux sur le chemin de notre salut. Et ici de citer un saint qui s'appelle Tikhon de Zadonsk, je ne sais pas si vous connaissez Tikhon de Zadonsk, qui dit « Voyez comment la tentation révèle ce qui est caché dans le fond de notre cœur. On peut voir à quel point la tentation nous est utile pour nous faire connaître notre état intérieur. » Nous ne prions donc pas de ne pas être tentés du tout, mais de ne pas être emportés, submergés par la tentation. Et saint Augustin le dit clairement, « En la vie présente, il est bénéfique d'être tenté. » Mais il ne convient pas d'entrer en tentation. Et Jean Cassien dit, cette parole, donc, la demande de la prière, ne signifie pas que nous ne soyons jamais tentés, mais ne permet pas que tentés, nous soyons vaincus. Autre effet positif de la tentation, auquel il a déjà été fait allusion dans la citation précédente, c'est que la tentation, qu'elle soit vaincue ou non, nous révèle notre fragilité, notre état intérieur, et donc peut nous conduire à une attitude humble et clairvoyante. Où en suis-je sur le chemin spirituel, si régulièrement je suis soumis à telle tentation et que régulièrement j'y tombe? Comme écrivait saint Cyprien de Carthage, quand nous prions de ne pas entrer en tentation, nous nous souvenons de notre faiblesse, afin que personne ne se regarde avec complaisance. Je dois terminer à Ah, ça va. Bien, c'est très bien. Je vais maintenant vous parler du diable et de l'utilité du tentateur. Alors, le titre, c'est « Le diable peut-il être utile ?» Voilà. À nouveau, une question qui semble un peu provocatrice, mais qui ne l'est pas du tout. La question découle naturellement de ce que nous venons de dire à propos de l'utilité même de la tentation. Il paraît a priori choquant de supposer que Satan, qui vient parasiter notre vie, qui vient nous détourner de Dieu tant qu'il peut, nous tromper, nous faire chuter, il est choquant de supposer qu'il puisse jouer un rôle positif dans notre vie spirituelle. Et pourtant, je partirai d'une citation de Goethe que nous trouvons dans ce célèbre livre Faust. Voici ce qu'écrit Goethe avec beaucoup de justesse et un peu d'ironie aussi amusante. Entre tous les esprits négateurs, c'est Dieu qui s'exprime, entre tous les esprits négateurs, c'est le malin qui met le moins à charge. L'activité de l'homme mollit trop aisément. Il a vite fait de se complaire dans le repos absolu, l'homme. C'est pourquoi je lui adjoins volontiers ce compagnon qui aiguillonne et stimule et, en diable qu'il est, doit travailler. Donc le diable est quelqu'un de très actif, de très créatif, comme un aiguillon. Rappelez-vous l'aiguillon dans la chair de saint Paul dont tu parles. Donc le diable est là comme le vacher qui aiguillonne le bœuf, c'est-à-dire nous, moi, pour avancer sur le chemin spirituel. Et donc le Seigneur semble, dans le texte de Goethe, exprimer là que le diable, en bon travailleur zélé, va nous stimuler, alors que nous sommes facilement enclins à la paresse, comme toute bonne âme appesantie qui se respecte. Ouvrons ici une parenthèse pour signaler que cette sorte de connivence entre Dieu et Satan, qui choque a priori notre sensibilité, se retrouve dans de nombreux mythes et légendes, un peu partout dans le monde. Vous connaissez peut-être Nircea Eliade, qui est un historien des religions et qui a analysé et présenté dans de nombreux livres les mythes, les traditions, les légendes, les religions, etc. Eh bien, Nircea Eliade explique que il y a une conviction profonde qui est en l'homme, qui hante notre inconscient collectif, c'est le mystère de la totalité. Et le mystère de la totalité englobe nécessairement tous les pôles de la réalité, tous les pôles contraires et complémentaires de la réalité, c'est-à-dire le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, le soleil, la lune, le vide, le plein, etc. On peut continuer longtemps. C'est ce qu'on appelle aussi, c'est ce que Nicolas de Cuse, qui vivait au XVe siècle, a appelé la coïncidence des opposés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le principe de la coïncidence des opposés implique l'union des contraires dans la totalité. Et beaucoup de récits cosmologiques, c'est-à-dire qui décrivent la création dans différentes traditions, imaginent que le principe du bien, Dieu, et le principe du mal, le démon, son frère. Et que la création du cosmos est née de la scission d'une unité originelle où le bien et le mal coexistaient. Ce n'est pas la tradition chrétienne, bien entendu, mais dans beaucoup de traditions d'humanité, on retrouve cette idée. Par exemple, dans la tradition indienne védique, les dieux, qu'on appelle les devas, et les démons, asuras, sont issus de la même origine. Je vous cite ici Nircea Eliade. D'une manière générale, on peut dire que tous ces mythes, rites et croyances ont pour but de rappeler aux humains que la réalité ultime, le sacré, la divinité, dépasse leur possibilité de compréhension rationnelle. Que la perfection divine n'est pas à concevoir comme une somme de qualités et de vertus, mais comme une liberté absolue au-delà du bien et du mal. Que le divin, l'absolu, le transcendant, se distingue qualitativement de l'humain, du relatif, de l'immédiat. Ces mythes, rites et théories, impliquant la coïncidence des opposés, enseigne aux hommes que la meilleure voie pour appréhender Dieu ou la réalité ultime, c'est de renoncer, ne fût-ce que pour quelques instants, à penser ou à imaginer la divinité en termes d'expérience immédiate. Fermons la parenthèse. Quelle est l'idée centrale qui sous-tend cette conception d'une certaine complémentarité entre Dieu et Satan? Je m'avance ici avec prudence, et je mets des guillemets à complémentarité. C'est ce constat d'expérience, mais aussi de nature métaphysique, que l'homme est un être qui ne peut se réaliser, avancer, s'accomplir, en termes bibliques, aller de l'image vers la ressemblance, qu'en évoluant de manière constante, continue, en se transformant, en se métamorphosant, en mutant. C'est le sens de la métanoïa, changement d'esprit, littéralement, changement de vie aussi, la nouvelle naissance. Et pour évoluer, pour franchir toutes les étapes de son développement spirituel intégral, esprit, âme, corps, l'homme passe nécessairement, c'est inévitable, par des épreuves qu'il doit surmonter, des crises qu'il doit intégrer, des tentations qu'il doit vaincre, avec l'aide de l'Esprit-Saint, bien entendu. Or, Satan est parfait dans un rôle, celui de dresseur d'obstacles. Satan, vous le savez, signifie en hébreu l'adversaire, celui que l'on a en face de soi chaque fois qu'il s'agit de passer une porte, d'évoluer, d'avancer sur le chemin. Il est là. Tout le temps. Satan est celui qui veut bloquer l'homme dans sa progression vers Dieu. Et Goethe, à nouveau, l'exprime très bien. Je ne savais pas que Goethe avait des relents de père de l'Église. Il dit, ça c'est Mircea Eliade qui commente Goethe, il dit, dans la conception de Goethe, Méphistophélès, qui est un des agents sataniques, comme vous le savez, Méphistophélès est l'esprit qui nie et proteste, et qui surtout, je le souligne, qui surtout arrête le flux de la vie et empêche que les choses se fassent. L'activité de Méphistophélès n'est pas dirigée contre Dieu, mais contre la vie. L'arrêt n'est pas une négation de Créateur, mais de la vie. À la place du mouvement et de la vie, il s'efforce d'imposer le repos, l'immobilité et la mort. Car ce qui cesse de changer et de se transformer se décompose et périt. C'est la loi de l'entropie. Cette mort dans la vie se traduit par la stérilité spirituelle. C'est en fin de compte la damnation.
Remarque, je trouve ça tellement important, que je répète.
Oui.
C'est arrêter la vie, le produit.
Donc, l'arrêt n'est pas une négation du Créateur, mais de la vie. Ah. À la place du mouvement et de la vie, il s'efforce, Méphistophélès, le Satan, il s'efforce d'imposer le repos, l'immobilité et la mort. Car ce qui cesse de changer, de se transformer, se décompose et périt. On ne peut pas s'arrêter. Cette mort dans la vie se traduit par la stérilité spirituelle. C'est en fin de compte la damnation. Celui qui a laissé périr au plus profond de lui-même les racines de la vie tombe sous le coup de l'esprit négateur. Le crime contre la vie laisse entendre Freud, cette fois-ci un autre père de l'Église, est un crime contre le salut. Et donc Satan joue un rôle dans la création. Et certains ne vont pas hésiter à parler même d'une fonction ontologique qu'il aurait à remplir. Et là nous retrouvons notre ami Annick de Souzenel dans son dernier livre « Le Seigneur et le Satan ». Annick explique que dans la racine hébraïque, nous trouvons la lettre tête, le T en français si vous voulez, qui signifie le bouclier. Le bouclier, c'est ce qui fait obstacle. Bouclier devant l'épée du verbe. Donc le bouclier, c'est ce qui empêche de passer. Je vous lis un extrait pour ne pas trahir sa pensée, un petit extrait de son livre. Le bouclier est symbolisé par la lettre tête. Or, la lettre tête est au cœur du nom de Satan. Satan, d'ailleurs en français aussi, hein, le T est plein milieu de son mot, garde avec Béhémoth, un autre sympathique, l'entrée de la matrice du crâne, de sa fonction ontologique, qui est divine. C'est lui, donc Satan, qui se dresse sur le chemin de l'homme, sous des noms différents, selon l'intensité de l'énergie qu'il présente à l'homme, et pour vérifier celui-ci. En sa fonction ontologique, le Satan est le gardien du seuil de chaque étape de croissance de l'homme. Alors, il y a quand même un problème avec Satan, c'est qu'il ne va pas rester dans ce rôle ontologique, qui serait à la limite acceptable, puisqu'il nous est utile. Il ne va pas se limiter au rôle ontologique de l'adversaire, mais il va devenir le malin, le mauvais, car il tente non seulement de se dresser en obstacle, ce qui est encore acceptable, que l'homme est donc appelé à franchir, mais il veut faire tomber l'homme. Ce n'est pas un obstacle neutre, c'est un obstacle malveillant. Je continue à citer Annick. Le Satan ontologique, ne pouvant aller plus loin, va déployer son autre face, celle du malin. Il use alors de la connaissance qu'il a des ruses pour tenter de faire tomber l'homme dans son piège. Il est un ange, et comme toute créature, l'ange est libre. Liberté redoutable dont celui-là use pour tenter d'empêcher tout être humain d'atteindre à la ressemblance d'Élohim. Lui, le Satan, est une énergie d'Élohim. Mais il lui est insupportable que l'homme puisse un jour intégrer l'énergie qu'il incarne et le dépasser pour devenir lui, c'est-à-dire l'homme, un Élohim. Aussi s'acharne-t-il à l'affaiblir, mais malgré cela, Dieu lui garde sa fonction ontologique, qui est divine. Voilà, c'est une thèse qui est audacieuse et qui déborde un peu l'enseignement classique de la tradition. Mais il m'a paru intéressant de la mentionner, car elle n'est pas du tout farfelue, dans la mesure où l'on ne va pas jusqu'à affirmer qu'il y aurait une complicité, un accord entre Dieu et Satan, qui se mettent d'accord, si vous voulez. Ça me paraît, et Annick, à la page 68, va jusque-là. Et elle parle de complicité entre Dieu et Satan. Moi, je trouve, je n'irai pas jusque-là. Je me souviens qu'elle avait dit en venant ici, il y a des choses qui vont choquer. C'est une chose qui peut choquer. Si on dit Dieu et Satan, vous savez, au début du livre de Job, il y a les fils de Dieu sont réunis autour du trône divin et ils sont en train de discuter. Et alors, il y a un des fils de Dieu qui est le Satan, qui va lui dire, tiens, mais si je m'occupais un peu de ton serviteur Job, là, tu vas voir, il te maudira en face quand je me serai occupé de lui. Et Dieu va accepter cette sorte de marché pour éprouver Job. Et donc là, on peut dire, quand on commence le livre de Job, évoquer une certaine complicité, mais avec triple guillemets entre les deux, mais il est évident que Dieu ne veut pas faire tomber Job, ni faire tomber l'homme, bien au contraire.
C'est pas bon mot.
Pardon ?
C'est pas bon.
Non, c'est ça. C'est pour ça que je parle de...
Il faut remplacer, ce qu'on a oublié, c'est la barrière. Le terme barrière, c'est le terme qui est approprié. Et la barrière, c'est quelque chose, disons, qui est indispensable. D'ailleurs,
oui,
la vie, c'est dépasser la barrière. C'est le yod après, c'est le rai, c'est le yod après la barrière. Et c'est le passage indispensable.
Oui, ben, c'est ce que je viens de dire.
Tout ce qui est, disons, tout ce qui est, qu'on assimile aussi au mal, on fait tout ça, c'est la même chose, quoi.
Mais toujours est-il que je n'irai pas jusqu'à parler de connivence ou de complicité. Pour ma part, je pense qu'il est sage, attends, André peut-être tout à l'heure dans l'échange, de se limiter, et c'est déjà pas mal, au fait d'accepter que Satan a un rôle à jouer dans notre vie spirituelle. Et que Dieu permet, évidemment, qu'il joue ce rôle, puisqu'il laisse à Satan l'entière liberté et à l'homme l'entière liberté. Tout se joue autour de notre fameuse liberté. Mais, comme nous le savons, Dieu utilise souvent un mal, ici la révolte du diable qui se dresse en obstacle au plan divin et à l'accomplissement de l'être humain, pour en faire un bien. Dieu transforme souvent le mal en bien. Et donc nous pouvons sortir fortifiés des épreuves que nous tend le Satan. En conservant donc cette juste mesure dans l'expression, on peut donc accepter que Satan est une fonction, disons, ontologique, mais que malheureusement pour nous, il outrepasse allègrement. Père Alphonse, dans son dialogue avec Shenouda d'Alexandrie, disait « L'homme qui prend conscience de la tentation, mais n'y succombe pas, qui saisit la grâce toujours présente pour se tourner vers Dieu, fait de l'adversaire avec un grand A de la vie un adversaire ontologique. Parce que, à cause de lui, cet homme progressera sur le chemin spirituel. Un jour, on a demandé à saint Antoine le Grand comment il avait acquis sa grande sagesse. Alors, il a répondu, par le démon. Conclusion de cette approche, il ne s'agit évidemment pas de réhabiliter Satan. Ce n'est pas mon propos, vous l'avez compris. Ni d'en faire une face cachée de Dieu, c'est encore moins mon propos. Ni encore moins son complice, comme certaines traditions et légendes rapportées par Mircea Eliade l'évoquent. Il n'est pas non plus question de prendre un malin plaisir à l'évoquer aujourd'hui. Je vous assure, il est très difficile de s'approcher de cette réalité de Satan et d'en parler. Et vraiment, ce travail m'a vraiment éprouvé. Je dirais même qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose de très très étrange quand j'étais en train de rédiger le texte, c'est que mon ordinateur a commencé à faire des siennes comme je ne l'ai jamais vu, c'est-à-dire que je tapais et les textes se déplaçaient. Je tapais un bout de phrase, hop, ça remontait ou ça descendait, et donc ça devenait tout à fait incompréhensible. Quand j'ai relu ma feuille, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, tout s'était mélangé. Et donc je me disais, vous savez, je ne suis pas le curé d'Ars qui a subi les assauts de Satan pendant 35 années, vraiment célèbre, mais si on s'approche de Satan, il faut y aller doucement et avec respect. Il ne faut pas mépriser Satan, il faut le respecter comme une créature de Dieu qui lui s'occupe de nous, mais tenons-le le plus possible à distance, avec l'aide, on a deux aides puissantes contre Satan. On a Marie, je vous en parlerai tout à l'heure, et on a Saint-Michel. Alors, donc je n'ai pas de plaisir à parler de Satan aujourd'hui, bien loin de là, mais comme disait Saint Jean Chrysostome, ça m'a fait plaisir justement de trouver cette citation, « Nous n'avons certainement pas plaisir à vous entretenir du diable, dit-il, mais la doctrine dont il me fournit l'occasion nous est de la plus grande utilité. » J'espère que vous serez d'accord avec cette phrase à l'issue de la journée. Il faut donc, me semble-t-il, prendre conscience, pour terminer cette partie, d'abord que Satan existe bel et bien si on peut dire, et que, c'est très étrange, il a un rôle effectif à jouer dans notre vie spirituelle, même si c'est celui du méchant de l'histoire. C'est celui qui dresse devant nous des obstacles, des barrières, pour nous faire grandir, si nous les franchissons, évidemment, avec succès. Mais le problème avec Satan, car il y a un gros problème avec lui, c'est qu'étant libre, il sort malicieusement de son rôle d'obstacle. Et vous savez, Satan, on pourrait le comparer à celui, imaginez une course d'obstacles. Vous voyez les chevaux, là, qui sautent les barrières, etc. Satan, ce sont les barrières que le cheval et le cavalier ont à franchir. Et tant que Satan se limite à son rôle d'obstacle et de barrière, il n'y a pas de problème. Il reste dans son rôle, c'est son travail. Mais le problème, c'est que Satan passe la main chaque fois que le cheval passe et il tire pour le faire tomber dans la rivière. Et ça, c'est vraiment là où il quitte son rôle ontologique pour jouer le rôle de malin qui veut nous faire chuter, c'est-à-dire du pervers, dont le but est de nous détruire, de nous ruiner, de ruiner notre relation avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Je vais arrêter ici la première partie et puis dans la partie suivante, nous allons nous approcher, tenter de nous approcher de Satan, de voir qui est-il d'après la tradition. Et nous allons voir que le Christ, c'est surtout le Christ qui a affronté Satan bien plus que nous et que j'ai pris conscience en faisant ce travail à quel point la vie du Christ était un combat à main nue, je dirais, contre la puissance du mal, le malin, Satan, l'adversaire. Voilà, mais ça, ce sera pour tout à l'heure.
J'ai justement reçu hier du blog de Séraphine que Martine Kellen vient de publier un livre, Satan et les nains, parce que s'attaque surtout au sein. Le niveau n'est pas très important.
Donc on va aller maintenant prendre la pizza. Et donc,
attends,
mais après, mission.